Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quel rôle joue le destin dans nos histoires d'amour? La vie a-t-elle mis Alexis sur la route d'Elsa plusieurs fois par hasard? Ou bien est-ce que c'est parce que leurs destins sont liés? Entre rendez-vous manqués et rencontres fortuites, l'histoire d'Alexis et d'Elsa est-elle un amour fantasmé ou bien une véritable histoire? Hasard, destin, en ce qui concerne ce dernier, en tout cas, Elsa ne s'attendait pas à ça.
On est en 2010, moi je travaille dans un gros cabinet de conseil, j'ai 32 ans à l'époque et je suis célibataire, je suis une working girl, c'est un peu la caricature de la jeune cadre dynamique qui bosse beaucoup, qui fait des rencontres mais qui n'arrive pas à se poser. Et j'ai une de mes copines qui m'annonce qu'elle est enceinte et que elle va avoir un congé maternité de 6 mois parce qu'elle travaille dans la banque et que dans la convention bancaire c'est 6 mois. Ce jour-là, quand elle me dit ça, je me dis mais moi aussi je veux un congé maternité. Enfin, je veux un congé de 6 mois. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et en fait, ça s'est transformé en je vais pas faire un bébé, mais je vais faire un voyage. Donc, je décide à ce moment-là de prendre un congé sabbatique. Quelques mois plus tard, je décide de partir à partir du mois d'avril 2011. En fait, à l'époque, le projet, c'est j'arrête cette vie de working girl où je multiplie les rencontres qui marchent pas. À l'époque, c'était vraiment un sujet pour moi. J'avais 32 ans, donc j'avais quand même envie de me poser. J'avais envie de faire une famille, évidemment. Je suis très omnubilée par l'idée d'une rencontre. J'y arrive pas. Ouais, ça met la pression et au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol en fait de ce truc qui tourne en rond. Et donc je me dis, je vais partir, je vais m'extraire de ce quotidien, m'extraire de ce statut social un peu particulier. En plus, j'entends en permanence les gens me dire « Mais t'es jolie, t'es intelligente. Moi, je me fais aucun souci pour toi, tu vas trouver quelqu'un. » Ça fait 10 ans qu'on me dit ça et j'en peux plus. Donc je me dis « Je pars. » Ça me permet de tout poser là, de faire autre chose, de plus penser à ça, de plus chercher à un homme. Je profite de la vie pendant 7 mois, congé sabbatique, découverte du monde, j'adorais voyager. Je monte un blog et puis je prépare une énorme fête de départ à laquelle j'invite mes copains, ma famille, donc mes parents et puis mes collègues pour dire au revoir et puis pour dire un peu fuck off quoi. Moi je c'est bon, salut quoi. Donc je dis à tout le monde viens avec tes copains, n'hésite pas, enfin vraiment on va s'amuser, venez tous quoi. La fête commence. Et assez vite, j'ai un collègue qui m'attrape par la main et qui me dit « Viens, on a des tech-paf sur le bar. » Puis moi, je suis joueuse, donc je bois une ou deux ou trois techs. Et en fait, je passe une soirée complètement dingue. Donc j'ai des vagues souvenirs de trucs, enfin vraiment super soirée, mais je me souviens pas de tout. Je me réveille chez moi, je sais pas qui m'a ramenée, avec mal à la tête, tout ça, tout ça. Et le lendemain, j'ai un message d'un copain. Alors, c'était un type que j'avais rencontré sur un site de rencontre avec qui c'était rien passé, mais on était devenus copains, qui me dit « Tu sais, hier, je suis venue avec un mec, avec un copain à moi, et il voudrait ton numéro de téléphone. Est-ce que tu serais d'accord pour que je lui file ton numéro de téléphone ?» Je lui dis « Ah bon, mais c'est qui ce type ?» Il me dit « Bon, c'est un copain, mais bon, je veux te prévenir, il est marié, il a des enfants, enfin, bon. » Je lui dis, bah, on voit toujours. On s'était rencontrés pendant la soirée. Moi, j'en avais un vague souvenir de tout début, de « Ah, bonjour, bah oui, t'es le bienvenu ici, amuse-toi bien. » Mais moi, j'étais avec mes copains, enfin, je le connaissais pas, je l'ai pas capté, quoi. Et puis, à l'époque aussi, j'avais eu une histoire avec un homme marié qui avait duré 2 mois de relation vraiment intense tous les deux, et puis 1 an de trucs où je voudrais que tu quittes ta femme, j'y arrive pas, truc pourri, où j'avais beaucoup expérimenté la solitude de quand on est la maîtresse, ouais, d'attendre, de passer ses week-ends seul parce que lui il est en famille, se voir en semaine quand c'est possible parce que voilà, bon. Et donc j'ai eu une aversion pour les hommes qui cherchent l'aventure extra-conjugale, et un petit côté la seule chose qu'il mérite c'est de tromper sa femme celui-là. Donc je dis à ce copain, bah oui, vas-y, file-lui mon numéro de téléphone. Quelques heures plus tard, le téléphone sonne. Alexis se présente, il m'explique qu'il était donc à la soirée la veille. Il me demande si je me souviens du moment qu'on a passé ensemble. Alors je lui dis que pas du tout, donc il est un peu embêté. Il cherche ses mots, il n'est pas à l'aise, et il me dit qu'il a très envie qu'on se revoie. Bon, moi, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup d'estime en fait pour sa démarche. Donc je suis un peu hautaine, un peu désagréable, je me rends plus ou moins dispo, je lui dis bah écoute, ouais, peut-être demain, je sais pas, on va voir. J'avais plus d'appartement, je vivais chez une copine le temps de prendre l'avion, puis j'avais encore des trucs à régler avant de partir, voilà. On se retrouve le lendemain à Place des Vosges, il m'invite à boire un thé. Physiquement, il a des très très beaux yeux verts, et alors moi je suis quand même une cérébrale, et c'est surtout sa façon de s'exprimer qui me touche, je pense. Parce que justement, il prend le temps de me dire les choses, il me dit pas « je te kiffe ». On s'assoit, et là, il commence à me raconter la soirée qu'on a passée ensemble. Il m'explique qu'il a eu un coup de foudre, qu'il m'a vue comme ça, au milieu de mes amis, de ma famille, que j'étais resplendissante, probablement du fait que je partais, et que j'étais dans un élan, dans un projet dingue. Et il me dit, au bout d'un moment, j'ai réussi à capter ton attention, on a dansé tous les deux, je t'ai parlé de l'Argentine où je vis et où tu vas voyager, parce que tu m'as demandé de te donner des conseils sur les endroits à visiter en Argentine. On a dansé et puis on s'est embrassés. Et là, tes copines sont arrivées comme des papillons de furax en disant « Non, 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 mais Elsa, elle a autre chose à faire ce soir, ça suffit, machin. » Donc, elles nous ont séparées et c'est tout. On a eu un petit moment comme ça d'échange. Bon, moi, je me souvenais de rien. Donc, lui, il était un peu mortifié parce que le moment qu'il avait passé avec moi ou qui avait été pour lui assez intense, bah, moi, je ne le partageais pas. Sur cette base-là, il me dit, voilà, j'aimerais pouvoir passer la soirée avec toi. Je passe un petit peu de temps à Paris, j'aimerais qu'on puisse passer du temps ensemble. Et je lui dis, bah écoute, ok, si tu veux, on peut se retrouver chez ma pote. Là, j'ai des courses à faire, mais on n'a qu'à se retrouver à 20h chez ma pote. On s'est retrouvés, on prend une pizza, on passe la soirée ensemble. Et en fait, je me dis, c'est quand même un homme particulier parce que pour un plan cul, il est marié, il a des enfants, il me le dit. Enfin, c'est, il prend le temps vachement de s'intéresser à moi. Donc, il m'interroge beaucoup, il me fait parler. On passe une soirée plutôt agréable et on couche ensemble. Enfin, on fait l'amour. Et moi, épuisée de toutes ces émotions, de la nuit de dingue, là, de la fête et tout, je m'endors. Le lendemain matin, quand je me réveille, il entre dans la chambre. Il me dit qu'il est content que je me sois enfin réveillée parce que lui n'a pas dormi de la nuit, qu'il m'a regardé dormir, mais que maintenant, il est quand même content qu'on puisse aller prendre un petit-déj. Et puis, on se quitte après le petit-déj. Parce que lui doit partir pour le boulot ailleurs en Europe et moi j'ai des choses à faire de toute façon. Voilà. Sans échanger rien, sans promesse évidemment, moi je partais, c'était fini, table rase, je passe à autre chose quoi. Bon, c'est le grand départ, le moment où mon père me dit bon ben on va y aller. Là, j'ai un petit moment de « ouh là là, ça y est, c'est parti ». Je me retrouve seule à l'aéroport avec mon énorme sac pour 7 mois de voyage. Je prends mon avion pour la Thaïlande. Je suis apeurée, excitée et c'était fou. J'arrive à Bangkok le 5 avril. Il fait très chaud, j'ai pas dormi de la nuit, je suis un peu azimutée. Bon, c'est le début du voyage, quoi. Voilà, je découvre, je me fais une soirée pas de taille et bière dans la rue. Enfin, c'est vraiment, voilà, je suis seule à l'autre bout du monde. Mais en fait, je suis seule là et c'est les autres qui sont à l'autre bout du monde maintenant. Le lendemain, une copine me rejoint et elle était en vacances. Moi, j'étais donc au début de mon voyage et on part pour Chiang Mai. On se balade dans Chiang Mai, je me souviens, il a plu ce jour-là, donc il y a des flaques d'eau, les lumières se reflètent. Enfin, c'est vraiment une ambiance tropicale, tellement différente de celle de Paris. Et mon téléphone sonne. Donc, avec un numéro inconnu, international, je décroche. Et puis, c'était une voix inconnue, mais un peu connue. Et en fait, c'est lui qui me reconnaît. Il me dit, mais c'est Elsa? Je dis, bah oui, c'est Elsa. Il dit, bah, c'est Alexis. Je pensais appeler un collègue. Et puis, en fait, j'ai fait ton numéro. Je me suis trompée. Ah, bah, écoute, je suis ravie de t'avoir au téléphone. Comment vas-tu? Est-ce que ton voyage commence bien? J'étais très étonnée. Enfin, je me demandais si c'était vraiment vrai, que c'était une erreur. Enfin, le lendemain, j'ai reçu un mail où il me dit, écoute, j'étais très étonnée de t'avoir au téléphone, mais c'était une super surprise. Bon, je suis contente de voir que ça commence bien ton voyage, mais on le savait déjà après l'étape inaugurale à Paris. Donc, il parlait de la nuit qu'on avait passée ensemble. Je te souhaite un beau voyage. Bon, je lui réponds. Et puis, de fil en aiguille, on commence à échanger des mails. Moi, je lui raconte un peu mon voyage, mon ressenti, en même temps que je le fais dans mon blog. Et lui m'envoie des compliments, essentiellement. Donc, il est toujours dans la drague, en fait. Il me dit que j'étais vraiment extraordinaire, que, enfin, il me fait plein de compliments, comme je suis belle, que, enfin, un homme, quoi, qui veut séduire une femme. Et c'est vrai que ce que je te dis pas, c'est que, à l'époque, moi, je suis quand même donc, très échaudée par les hommes qui cherchent des relations extra-conjugales, parce que je sais qu'ils ont rien à donner. Moi, je pars en voyage pour arrêter ça, justement, pour arrêter les histoires qui marchent pas. Donc, j'ai pas du tout envie de m'encombrer d'un type qui veut une histoire alors que moi, je suis en voyage, quoi. Donc, je suis un peu aussi, je lui dis, ouais, mais bon, non, quoi. 15 jours plus tard, je reçois un mail qui s'intitule « Fleuve de Sibérie orientale ». C'est le fleuve Amour. Et dans son message, il me dit « Je suis dans l'avion, je rentre en Argentine. Je déteste l'avion d'habitude, mais là, ça me laisse 12 heures pour penser à toi. Et d'ailleurs, j'avais quelque chose à t'écrire. Quand je pense à toi, j'ai des fourmillements, j'ai des hébétudes, des syncopes. Un paragraphe comme ça, hyper joli, quoi, un poème en prose pour me dire « Bah, y a pas tellement de doute sur ce que je ressens. » quoi. Il ouvre son cœur et c'est, ça me touche, c'est très joli, enfin c'est très bien écrit, et puis c'est quand même une déclaration d'amour, quoi. Et je lui réponds que ça me touche beaucoup, mais que moi je suis en voyage et que ça change rien à ce que je ressens. Enfin, voilà. Dans ce message, il dit quand même tout ça est très beau, à la fois très beau et un peu consternant parce que la situation ne s'y prête pas du tout. Donc je lui réponds bah effectivement, t'as raison, c'est très beau, mais aussi tout à fait consternant. Toujours, moi aussi, dans mon idée de ce que tu me proposes, en plus, moi, je déteste, quoi. Bon, on commence à aussi se parler au téléphone. Donc, on passe un quart d'heure, une demi-heure, une heure au téléphone de temps en temps. Et c'est pareil, sa façon de parler me touche. On a quand même des choses à se dire. Moi, je lui raconte mon voyage, lui me lit mon blog, et puis il est très attentif, en fait. Donc, à ce moment-là de mon voyage et de ma vie, je suis complètement centrée sur moi, sur ce que je ressens, sur tout ce que je vis. Il m'écoute, il boit mes paroles, donc c'est génial, en fait. Hein. Ça me séduit, du coup, forcément, puisqu'il s'agit que de moi. Après la Thaïlande, mon deuxième pays, c'est l'Australie. Il commence à me dire que peut-être il pourrait me rejoindre à Sydney. Moi, je lui dis, écoute, c'est compliqué, je vais chez des amis, je me vois pas les planter pour être avec toi. Enfin, bon, c'était, voilà. Et puis, je lui dis, si tu veux, ce qui pourrait être chouette, c'est qu'on se retrouve plutôt sur l'île de Pâques. C'est plus proche pour toi, parce que lui, il habite donc en Amérique du Sud, et ça te laisse le temps de peut-être mettre les choses au clair de ton côté sur ce que tu veux vivre me concernant. Voilà, moi, de toute façon, je veux pas d'une relation adultérine, donc c'est soit t'as envie d'être avec moi et on peut envisager d'apprendre à se connaître, sans rien, sans faire de promesses, mais de toute façon, je serai pas ta maîtresse. Il me dit, non mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée de traverser la moitié de la planète pour te rejoindre. Oui, l'île de Pâques, c'est super parce que c'est un rendez-vous quand même fabuleux. T'as raison, ça me laissera un petit peu de temps. Et puis d'ailleurs, t'as vraiment raison parce que là, j'ai commencé à en parler avec ma femme. À en parler, je sais pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit à en parler? Mais en gros, il commence à évoquer le fait que leur couple bat de l'aile ou qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et moi, je lui dis, oulala, mais si tu prends des décisions concernant ton couple, il faut que tu les prennes parce que tu les veux. Parce que moi, je ne suis pas en train de te faire des promesses. Quoi. Je ne suis pas amoureuse de toi. Je suis en voyage, encore une fois, dans un moment de ma vie très particulier. Donc... Bon, je suis en Australie. L'Australie, c'est quand même un pays qui est complètement dingue. Donc, c'est des grands espaces, c'est des nuits avec la voûte céleste au-dessus de la tête. Donc, tout ça, je le partage avec lui, soit via mon blog, soit directement quand on peut. Et puis, à un moment donné, je pars pour 6 jours dans un parc national qui s'appelle le Kakadu National Park, où il n'y a pas d'internet, pas de téléphone, bah rien. Donc pendant 6 jours, c'est déconnexion totale. Et quand je reviens, bah, la première chose que je fais, c'est que je me connecte à mon mail et à mon blog. Pas de nouvelles d'Alexis. Donc là, je me dis, bon, bah, peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'effectivement, il a avancé dans sa discussion avec sa femme et puis qu'il s'est rendu compte que... Et quand même, je lui écris tout de suite, je lui dis, mais est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que c'était un test? Pourquoi j'ai pas de nouvelles de toi? Puis je vais sur mon blog, je raconte, je poste des photos, tout ça, et puis je reviens sur mon mail, et j'avais un message d'Alexis qui me dit, non, si on compte le nombre de fois où j'ai rafraîchi mon mail, ton blog, mon mail, ton blog, mon mail, ton blog, je suis loin d'avoir retrouvé la raison. Et effectivement, t'as raison, c'était un test. Je voulais savoir comment tu réagirais en voyant que t'avais pas de nouvelles de moi après 6 jours d'absence. J'ai trouvé ça vachement malin de sa part, parce qu'il m'a fait toucher du doigt le fait qu'en fait, il m'avait manqué et que la première chose que j'avais envie d'avoir, c'était des messages de lui, quoi. Donc, je commençais à m'attacher. J'ai commencé à changer mon attitude à son égard. Et je lui ai dit, d'ailleurs, parle-moi de toi un petit peu, j'aimerais bien te connaître, parce que depuis le début, donc, on ne parlait que de mon voyage, de moi, qui était formidablement belle, sur toutes les photos. Et donc, il me parle de lui et... On se parle au téléphone, on échange, etc. Je me retrouve au Samoa, des îles au plein milieu du Pacifique Sud, avec 3 copines néo-zélandaises, dans un resort au bord de la plage. Voilà, je leur raconte mon histoire avec Alexis. Et alors, elle, pour elle, c'est le French love à mort et tout. Et donc, c'est un peu elle qui ont mis des mots sur, mais en fait, c'est le big love, quoi. Bon. Moi, je me protégeais, mais je me rends compte en racontant l'histoire que je tombe amoureuse, quoi. Et donc, je finis par lui dire à Alexis, on est à peu près à la moitié du voyage. Et lui, de son côté, il continue d'avancer. Il me dit qu'il a repris des séances de psy pour clarifier ce qui se passe pour lui. Après la Nouvelle-Zélande, j'arrive en Amérique du Sud. Je je traverse l'Argentine. Lui n'est pas en Argentine à ce moment-là parce que c'est l'été. L'été français et que, comme il est quand même français d'origine, il rentre en France avec sa famille pour voir sa famille d'origine. Et donc, au moment où moi, je suis en Argentine, là où il vit, lui n'y est pas. Donc, c'est le chassé-croisé. Et je remonte l'Argentine pour aller jusqu'en Bolivie. Et en Bolivie, on a une conversation. Il me dit, écoute, là, c'est la crise totale. Je suis en train de faire un énorme grand écart émotionnel entre l'idylle que je vis avec toi et l'enfer à la maison. On est rentré dans le dur. Il faut que je me consacre à ce travail que j'ai à faire avec ma femme pour clarifier les choses. Donc, on va arrêter de se parler. On va arrêter de trop s'écrire parce que moi, j'ai besoin de me consacrer à ça. Et là, moi, je me dis, ah ouais, d'accord, donc en fait, il me plante, quoi. Maintenant que je lui ai dit que je suis amoureuse, il me lâche. Il m'envoie un ou deux messages en me disant, je peux pas te demander de m'attendre, mais quand même, j'aimerais bien pouvoir te demander de m'attendre, parce que je suis pas en train de te lâcher, j'ai vraiment un travail à faire pour avancer avec ma femme, j'ai quand même deux petites filles pour qui... Les choix que je suis en train de faire vont avoir des grosses conséquences, donc il ne faut pas que je fasse les choses à la légère. Et puis toi, il faut que tu profites de ton voyage, etc. Bon, il n'avait pas tort, donc moi, je me mets dans l'état d'esprit de « je suis en voyage, c'est le plus beau moment de ma vie, il faut que j'en profite, je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour un mec. » N'oublions pas que j'étais partie dans l'idée de arrêter de me prendre la tête avec les mecs. Continue mon voyage, la Bolivie, ensuite le Pérou et puis les États-Unis. Aux États-Unis, j'avais un très grand périple qui m'emmenait depuis Los Angeles en passant par San Francisco. Ensuite, je prenais une voiture et je traversais tous les États-Unis pour aller dans un ranch dans le Nebraska, pour aller sur les traces de l'héroïne de Jim Harrison qui s'appelle Dalva. Parce que j'avais lu ce roman qui m'avait bouleversée quand j'avais 20 ans et je l'avais relu 2-3 ans avant que je parte en voyage et je voulais aller sur les traces de Dalva. Donc je continue de voyager en ayant quand même Alexis dans le cœur. Je continue de raconter dans mon blog, je continue d'écrire pour lui parce que je sais qu'il me lit même s'il ne m'écrit plus. Je regarde les paysages que je traverse avec ses yeux, enfin... en imaginant ce que je vais raconter pour le partager avec lui et avec ma famille, enfin tous les gens que j'aime, quoi. Et puis, quelques jours avant de rentrer, j'organise une fête de retour pour retrouver mes copains, etc. Et je l'invite à Paris. Et j'invite Alexis via Facebook. Alexis me répond quelques jours après, peut-être. Il clique sur « je participerai, je ne participerai pas » ou « peut-être ». Et donc, pour moi, le « peut-être », c'était « j'ai clarifié ma situation. Si je peux prendre un avion, je serai là. » Donc, pour moi, c'était « oui ». Je rentre, le cœur serré parce que 7 mois de voyage, c'était trop court. Mais bon, c'était prévu comme ça. Et je lui envoie un mail pour lui demander « tu as répondu peut-être, est-ce que je compte sur toi ?» parce que je n'avais pas de nouvelles. Et là, en fait, je reçois un mail où il me dit « Écoute, Elsa, j'ai avancé, j'ai compris où est ma place, elle est auprès de mes filles, je peux pas renoncer à la famille que j'ai commencé à construire ici, c'est l'épilogue de notre histoire, on va remettre notre amour à l'éternité parce qu'en fait, on pourra pas s'aimer dans cette vie-là, quoi. » Alors, j'ai reçu ça... Vraiment, je me souviens, j'ai vraiment eu l'impression que mon intérieur s'effondrait. Enfin, j'ai l'impression d'être les tours jumelles de New York, là, le truc qui tombe à l'intérieur. Et j'ai senti que je suis sur la brèche de me dire... alors, ça veut dire que ce voyage que j'ai vécu en le partageant avec lui, dans ce truc d'histoire d'amour... parce que j'étais... Enfin, c'était de l'amour, quoi. Bah, en fait, c'est tout faux. J'ai un moment comme ça où je vacille, de vertige, où je dois faire un choix. Et je me dis, non, en fait, c'était une histoire complètement dingue, virtuelle, mais tout à fait vraie. C'était que des sentiments, en fait. Et c'est mon histoire, elle va avec mon voyage, et c'est complètement indissociable. Le voyage est fini, l'histoire est finie, et c'est très bien comme ça. Je retourne au travail. Je comprends très vite que cette vie que j'avais avant de manager dans un gros cabinet de conseil me convient plus du tout. Le voyage m'a complètement décalée, en fait, par rapport à cette vie d'avant. J'ai beaucoup grandi dans ma tête, dans ma confiance en moi aussi. Je sais que ça pourra pas continuer, mais je sais pas ce que je vais faire. Donc, j'ai un petit moment de déprime, hein, pour être honnête. Et puis, je me dis, bon, il faut que je construise autre chose. Je vais prendre le temps. Donc, ça m'a pris une année pour décider de continuer de faire le même métier, mais à mon compte. Ce qui était une manière de prolonger la liberté que j'avais eue pendant mon voyage, mais là, dans la vie professionnelle et la vie quotidienne à Paris. Et quelques mois après avoir quitté ce gros cabinet de conseil, je rencontre un homme dont je tombe amoureuse assez vite. Alors pareil, c'est un homme, en fait, je tombe amoureuse de la façon dont il me parlait. Bon, après, c'était aussi une super personnalité. On commence une histoire, voilà. Et moi, j'avais qu'une envie qui m'était quand même restée de ce voyage, c'était de retourner au ranch, le fameux ranch dans les Sand Hills du Nebraska. Retourner sur les traces de Dalva, et parce que j'avais fait en fait la rencontre avec cette famille, c'est des cow-boys, hein, c'est des gens qui travaillent à cheval, qui attrapent des vaches au lasso. Enfin, c'est une vie complètement décalée par rapport à la nôtre. C'est comme si j'avais la conviction que j'étais une indienne Lakota dans une autre vie, quoi. J'ai besoin de retourner là-bas, et il se trouve que cet homme que j'ai rencontré n'a pas envie de m'accompagner, c'est pas son truc les voyages, et puis moi je j'insiste pas parce que c'est quand même mon endroit, mon histoire. Donc j'organise mon voyage et je pars, ça fait 6 mois qu'on se connaît. Donc on est en 2013 et je repars pour 3 semaines pour refaire un road trip aux États-Unis, donc arriver directement au ranch et puis ensuite un autre voyage. Et comme c'est du voyage, je reprends mon blog et je raconte que voilà, je retourne sur les traces de ma venue au ranch. J'arrive au ranch et là j'ai un mail Alexis qui me dit Elsa, je suis à Boulder, tu es à Boulder, donc c'était la ville que j'avais visitée la veille pour atterrir. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé. Cet alignement de planète ne peut pas être anodin. Il faut qu'on se voie. Je lui dis premièrement, je suis plus à Boulder parce que j'ai déjà fait une journée de route pour être sur le ranch. Et je lui réponds, il me semble que toi, tu passes régulièrement à Paris et que tu prends pas cette opportunité pour qu'on se voit. Donc non, en fait, on va pas se voir parce que il y a un alignement de planètes, aussi fou soit-il. C'est complètement fou. On est en même temps, au même endroit sur la planète, alors qu'il vit en Amérique latine et moi en Europe, quoi. Et on se retrouve à 24 heures près, dans la même ville. Et puis je lui dis accessoirement que j'ai rencontré un homme dont je suis amoureuse, qui veut tout avec moi, enfin qui. Voilà. Je vis cette histoire d'amour avec cet homme qui s'appelle André. Je lui avais demandé s'il avait des enfants, il m'avait demandé aussi. Je lui ai dit non et j'aimerais en avoir. Il m'avait dit oui, c'est normal. Et les enfants, c'est la vie. S'il y a de l'amour, il y aura des enfants. Voilà. Donc on était partis. Donc, moi, quand j'avais entamé ma relation avec lui, c'était envisageable d'avoir des enfants. On part en voyage au Canada. On avait 3 semaines pour être en dehors de notre vie quotidienne, ce qui est toujours peut-être le moyen de prendre du recul, de la perspective. Au moment de la préparation du voyage, je lui dis si on n'a pas de perspective ensemble de faire une famille, je me projette pas au-delà de notre voyage au Canada. Son discours, c'était ton envie, elle est légitime. Évidemment, t'es la femme de ma vie. Bien sûr que c'est normal de vouloir prolonger dans un enfant, mais moi, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Il faut que je creuse, il faut que j'essaye de comprendre pourquoi j'ai un blocage. Donc moi, j'ai toujours cet espoir qui va se prendre en main, qui va voir qu'on est fait pour être ensemble, qui va changer. Et donc, pendant le voyage, je tente d'avoir des conversations avec lui. Et en fait, un jour, il me dit... je vois pas à quel titre je devrais faire quelque chose dont j'ai pas envie. Et là, ça, en fait, ça a brisé quelque chose en moi. Je me suis dit, si tu vois pas à quel titre, c'est que on n'a rien à faire ensemble. Je prends la décision à ce moment-là de le quitter. On finit notre voyage comme on l'avait préparé. Et le lendemain du jour où on atterrit à Paris, je lui dis, voilà, il me reste quelques années pour pouvoir avoir un enfant. Tu n'en veux pas, donc je vais m'en aller. Et il me répond, alors c'est maintenant. Et donc là, j'ai su que je devais partir. Ah bah c'était l'effondrement total. À l'époque, j'ai la sensation de me couper les deux bras, les deux jambes, de sortir mes tripes sur la table. Enfin c'est terrible parce qu'on s'aime et j'avais l'impression que je pouvais pas vivre sans lui. Les six mois qui suivent, je continue de douter très fort de mon choix parce que la vie avec lui était extraordinaire et. Et ouais, je doute parce que je me suis pas rapprochée de la possibilité d'un enfant en le quittant. Je mets un an et demi à m'en remettre. Et pendant cette année et demie, arrive un épisode un peu dingue. C'est que je suis en vacances avec une amie sur l'île de Ré. Je viens de passer une semaine avec elle et ses filles. Je suis la marraine de sa troisième fille. C'est la famille, quoi. Je suis hyper bien. L'île de Ré, enfin, ça finit par être presque une deuxième maison pour moi. On est allé le matin faire nos deux petites courses et puis on déjeune comme tous les jours. Et je prends le train vers. Elle me ramène à La Rochelle à 14h. Et puis pendant le déjeuner, je reçois un mail, je sais pas, je reçois une notification et puis c'est Alexis. Puis alors, Alexis, quand le nom d'Alexis s'affiche sur dans mon mail, il y a toujours un petit serrement de cœur, même si ça fait 6 ans que je suis rentrée de voyage, quoi, que j'ai pas de nouvelles. Il y avait eu l'épisode du ranch. Je lui avais envoyé un mail pour lui dire j'ai rencontré quelqu'un, donc maintenant je vais me consacrer à cette relation-là parce que cet homme, il a envie d'être avec moi. 3 ans et demi plus tard, je me sépare d'André parce qu'en fait, cet homme, il n'avait pas envie de tout faire avec moi comme je l'avais prétendu. Et j'avais envoyé un mail à Alexis pour lui dire ça, lui dire j'ai quitté André. Et en fait, j'avais jamais envoyé le mail, j'avais envoyé à moi-même. Donc c'était vraiment un acte manqué, c'est-à-dire que j'avais écrit un mail à Alexis que je n'avais pas adressé à Alexis. Donc, il l'avait jamais reçu. Donc, il savait pas que j'étais plus avec André. Et là, il m'envoie un mail. Donc, au moment où donc je déjeune avec ma copine, il me dit « Elsa, ce matin, sur le marché de Loie en Ré, j'ai croisé une femme qui te ressemblait énormément. Vous étiez attablée en train de boire un café. Ça devait être ta sœur avec ses filles. Est-ce que c'était toi ? Est-ce que tu voudrais bien qu'on aille boire un verre si c'était toi ? Et puis, si t'étais pas toi, on pourrait quand même aller boire un verre. » Et je lui dis, bah oui, c'était moi. Enfin, je suis complètement scotchée parce que cet homme-là, il vit en Argentine. Une fois de plus, moi-même, je suis pas chez moi. Enfin, je suis en vacances chez ma pote. Et il est là, quoi. Il est là, il est dans le village, il est à 200 mètres de moi, quoi. Et je lui dis, écoute, oui, c'est moi que tu as vu ce matin. Je viens de passer une semaine sur l'île de Ré. Je prends le train à 14h, donc on pourra pas boire un verre. Il me dit un truc du genre, est-ce que tu peux pas changer ton billet de train pour qu'on puisse... Je lui dis non, je peux pas parce que demain, je continue mes vacances, je pars dans le sud de la France, dans le Pays Basque. Il me dit, ah bah alors moi je rentre à Paris demain, j'arrive à la gare Montparnasse à 13h, on peut peut-être boire un verre. Et je lui dis, écoute, moi je prends un train à 15h à la gare Montparnasse, donc oui, on peut boire un verre entre 13h et 15h. Quoi. Et donc, on se retrouve... au ciel de Paris, tout en haut de la tour Montparnasse. Ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était après avoir fait l'amour pendant une nuit à Vincennes et pris un petit déjeuner alors qu'on ne se connaissait pas. Et ensuite, on a vécu cette histoire, mais à distance, au téléphone, par email, on ne s'était jamais revu. Alors, je vois un homme grand, mal fagoté. Il avait une chemise blanche mais par passé, un pantalon fatigué, une grosse valise. Il me voit et quand on se regarde, je vois un peu un petit garçon quoi. Il est timide, il est ému, moi aussi. Enfin, on s'assoit. Il a cette façon de chercher ses mots, il fait un peu le joli cœur, moi aussi. Enfin bon, on est tout de suite dans un truc de séduction directe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il propose qu'on prenne du champagne, parce que quand même, c'est l'occasion. évidemment, j'accepte. Et puis, on est jeunes tous les deux, mais on se dévore des yeux, quoi. Et on se parle, on se raconte un peu nos vies. On n'a pas beaucoup de temps. Et puis, on finit par s'embrasser. Des baisers d'une douceur et d'une intensité dingue. Et moi, je me dis, mais en fait, l'amour que j'avais pour cet homme est intact, tout en étant complètement différent de ce que j'ai vécu quand on était au téléphone et par email. Ça n'a rien à voir. Il y a bien un truc d'éternité entre nous, quoi. Quoi qu'il arrive, ça bouge pas. Lui, il doit passer 3-4 jours à Paris parce qu'il est en train d'organiser un déménagement ailleurs. Et moi, je pars donc dans la Sierra de Guara et je pars avec le cœur mais rempli de bonheur, quoi. Moi, je lui dis de venir avec moi parce qu'après tout, il a 4 jours à Paris, il peut venir avec moi à Pau pour passer une nuit ensemble. J'ai une escale à Pau avant de partir en Espagne. Et il me dit non, j'ai des choses à faire, je suis stressée par ce déménagement. Bon. Et pendant ma semaine de vacances et pendant que lui est à Paris, on a l'opportunité de se parler puisqu'il est sans sa famille. On a une conversation où à un moment donné, je lui dis « Mais tu penses qu'on va le vivre un jour, cet amour ?» Et il y a un blanc. Et là, j'entends dans le blanc qu'en fait, le fait que moi, je parle d'amour, lui, ça lui parle plus. Mais bon, je l'entends tout en l'entendant pas, parce que ce que j'ai vécu avec lui il y a 24 heures, c'est hyper fort, des baisers hyper tendres, donc j'entends pas, voilà. Et puis de nouveau, plus de son, plus d'image, c'est-à-dire que chacun retourne à sa vie, voilà. Après, j'ai eu une histoire avec un homme avec qui ça n'a pas marché et que je quitte à la veille de mes 42 ans, toujours dans cette idée que moi, j'ai envie d'avoir une famille, des enfants, enfin un enfant, parce que j'ai quand même déjà 42 ans. 3 jours plus tard, j'appelle une clinique en Belgique avec laquelle il serait envisageable de faire une procréation médicalement assistée pour qu'on... Enfin, je commence à poser les bases d'un projet de bébé en solo. Donc là, on est décembre 2019. Janvier 2020, je rencontre la psy de cet hôpital belge, puisqu'en France, on n'a pas le droit d'avoir accès à la PMA quand on est seul. Je pars en Belgique, je rencontre la psy qui valide mon projet. Donc, parce qu'il se trouve qu'en Belgique, dans cet hôpital-là, ils souhaitent valider les projets avant de s'engager avec une femme pour qu'elle puisse devenir maman solo. Moi, cet adoubement par ce psy me galvanise. Enfin, je suis prête pour ce projet. Je vais m'engager dans la maternité solo. J'ai tenté le coup à maintes reprises avec un homme. C'est pas possible de faire ce projet-là avec un homme, donc je vais le faire seule. Entre-temps, je consulte une voyante qui me parle de plein de choses, mais qui me dit « Mais il y a un homme, c'est votre âme sœur. Il est sur un autre continent. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il va revenir, mais lui, il faut que vous alliez le chercher. » Et puis, elle part sur des considérations professionnelles, de santé, et à chaque fois, elle revient, elle dit « Mais il y a cet homme, il y a vraiment un truc, il faut que vous alliez le chercher. Est-ce que vous savez de qui je parle ?» Je lui dis « Bah oui, peut-être, c'est peut-être Alexis. » Elle me dit « Mais il est sur quel continent ?» Je lui dis « Bah, il est au Canada. » Elle me dit « Ah bah oui, c'est ça. » Bon, facile. Et puis, 3 jours plus tard, je reçois un message d'Alexis via LinkedIn qui me dit « Bonne année, je vais être bientôt sur Paris, ce serait sympa qu'on se voit. » Donc là, je me dis « C'est pas possible, encore un alignement. » Enfin, elle me dit que c'est l'homme de ma vie et il réapparaît immédiatement. Donc, c'est forcé que ce soit vrai. Mais moi, je suis quand même avec ce projet de bébé parce que j'ai 42 ans et que là, maintenant, je peux plus attendre. Et donc, il vient à Paris, on se voit, on passe une super soirée parce que l'île de Ré, c'était 6 ans après notre première rencontre. Et là, on est de nouveau 4 ans après. Toujours la même alchimie. Je le trouve empâté quand même. Je me dis, bon, physiquement, il s'est empâté. Mais on a eu les mêmes lectures, on a eu les mêmes réflexions, enfin, on a eu le même cheminement de pensée. Quand je le vois, j'attends qu'il se passe quelque chose. Et là, comme j'ai mon projet de bébé, je sais que je vais avancer sur mon envie de maternité, l'idée d'une relation, même adultère, est plus grave, en fait. Je me dis, si je peux être amoureuse et maman, c'est chouette. Il parle pas du tout de sa femme. Il parle très peu de ses filles, il en parle un peu. Et en fait, il dit toujours, est-ce que c'est plus important d'être fidèle à sa femme ou d'être fidèle à soi-même, ou fidèle à ses sentiments? Donc, en fait, il assume complètement son adultère en disant, c'est mon affaire, je me sens pas du tout coupable, non. Pas du tout, puis je me dis toujours que dans une relation, on est deux, donc si leur couple marche pas, elle a sa responsabilité d'une certaine manière, quoi. Et puis moi, j'ai rien, je suis pas allée le chercher, ce mec-là, hein. C'est lui qui est venu, donc non, j'ai pas tellement de culpabilité. Et donc la soirée, elle se passe, bah, on se dévore des yeux, on se parle. Il me propose à plusieurs reprises d'aller chez lui, mais moi, c'est pas le moment. Et puis finalement, on se quitte, il me remet dans un taxi, je crois, et on s'embrasse un tout petit bisou sur la bouche. Mais je me dis qu'il n'y a pas d'urgence, que si ça doit se faire, ça va se faire. Puis peut-être aussi, j'ai peur que si on couche ensemble, après c'est terminé, quoi. Donc je sais pas pourquoi, mais on passe pas la nuit ensemble. C'est vrai que c'est bizarre. Et puis arrive le Covid. Je me confine avec une amie en Drôme provençale, magnifique confinement, beaucoup de chance. J'avance sur mon projet de bébé solo, c'est-à-dire que je choisis un donneur sur une banque de sperme. C'est beaucoup moins glamour. Et puis finalement, je prends des marques avec une autre clinique pour avancer sur la PMA. Et donc, je continue de vivre dans cette idée de « je vais devenir maman ». En tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour. Et puis, les relations amoureuses, c'est mort. Parce que, un, on peut rencontrer personne, vu que c'est Covid. Et deux, je vais pas imposer ça à un homme. Arrive la fin du confinement, donc retour à Paris. J'avance sur la PMA. Et un jour, allongée sur le divan, parce que j'ai une pratique intense de la psychanalyse, je m'entends dire, oui, enfin, après tout, les hommes, ils peuvent décider de ce qu'ils ont envie de faire vis-à-vis de moi, si je leur présente mon projet de maternité, d'envie d'enfant. Pourquoi est-ce que je décide que c'est pas possible? C'est à eux de décider. Et donc, je me rebranche sur un site de rencontre. Et puis, je tombe sur un type, à un moment où je suis en vacances, parce que c'est l'été, donc je suis pas à Paris, lui non plus. Et pendant 15 jours, on échange par WhatsApp, et donc c'est léger, c'est sympa. Arrive le moment où on va reconverger tous les deux vers Paris, nos vacances se terminent, donc on envisage de se rencontrer. Et là, je lui redis très franchement, moi j'ai l'intention d'avoir un bébé solo. Donc, en fait, je lui dis parce que je retournais au Portugal faire une deuxième ponction ovarienne, qui fait partie des étapes de la PMA. Et donc, j'étais pas disponible la semaine où lui rentrait à Paris parce que moi je repartais. Voilà, je suis hyper transparente et je lui dis. Et là, il me dit what? Et je lui dis oui, j'ai 42 ans, je peux plus attendre, enfin j'ai plus envie d'attendre, donc je vais faire un bébé solo. Il me dit ah d'accord. Il fait pas de commentaires en mode un peu bah de toute façon vu qu'on se connaît pas et que on s'est pas encore rencontrés et puis que c'est pas encore fait, enfin il y avait pas de sujet, il y avait pas vraiment de conversation à avoir autour de ça. Je fais donc mon aller-retour au Portugal avec lui au bout du WhatsApp. Qui suit les étapes, j'arrive, enfin bon, l'avion, machin, la ponction, le retour, le réveil de l'anesthésie générale. Enfin, il est présent, sans que ça ait beaucoup d'importance pour moi parce que je le connais pas. Enfin voilà. Et puis je rentre à Paris et 24 heures plus tard, on se rencontre. Et puis je me sens bien avec lui, il me plaît, je le trouve sexy. Je me dis pourquoi pas quoi. Ben, il est déjà papa de 3 grands enfants qui sont des adolescents. Il a 3 garçons. Et en fait, moi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je suis tellement portée par mon projet de maternité. Et puis, c'est quand même très prenant parce que la PMA, c'est très stressant. On ne sait jamais si on va y arriver. C'est beaucoup d'argent. Donc, je ne suis pas très disponible pour véritablement m'engager dans une relation. Donc, je suis contente qu'il soit là. Je suis contente de passer des moments avec lui. Je ne lui demande rien. Lui non plus, à part quand est-ce qu'on se revoit. Et ça me va très bien, c'est souvent lui qui propose qu'on se revoie, et pour moi, à chaque étape, s'il donne pas suite, et ben il donne pas suite, quoi, je sais pas. J'ai la chance d'avoir un embryon qui est viable, donc je retourne au Portugal pour qu'on le dépose dans mon utérus. Je vais chercher mon embryon, comme je dis, Et puis, 15 jours plus tard, prise de sang pour savoir si je suis enceinte. Et donc, ça fait 2 mois qu'on se côtoie comme ça, qu'on se voit régulièrement. Et évidemment, il est au courant de tout. Donc, le matin, je vais au laboratoire. Et normalement, j'avais les résultats vers midi, 13h. Bon, toujours pas de midi et demi, pas de résultat. Je pars déjeuner, 13h30, pas de résultat. Je commence à me tendre. Et puis, je reçois une notification du labo. Donc là, il faut que je me connecte parce que le résultat, il n'est pas dans le mail. Il est dans après connexion. Donc là, hyper fébrile. Et s'ouvre le résultat et c'est marqué 872 UI. Donc là, je dis à mon voisin de bureau... Putain, ça a marché, Nico. J'étais super émue. J'y croyais tout en n'y croyant pas. J'appelle ma mère qui se met à pleurer, qui me dit « Bon, bah, je vais raccrocher parce que je suis trop émue. » Et puis, évidemment, j'avais prévenu Ben, donc mon compagnon, parce qu'il savait que j'attendais ça. Donc lui, il me demandait « Alors, t'as eu les résultats ?» Il montre pas grand-chose, mais le soir, il me rejoint à la maison avec une bouteille de champagne et un petit cadeau. Que j'ai trouvé super. En fait, il m'a offert une petite enceinte pour faire de la musique. Et je lui dis, alors, t'offres une petite enceinte à la petite enceinte, quoi. C'était drôle, quoi. Et voilà. Et en fait, Ben, je suis enceinte, ça change rien, quoi. Ça ne change rien. La grossesse avançant, il commence à me parler d'autonomie. Et alors moi, je trouvais que c'était hyper intrusif, parce que c'était toujours quand même mon projet, mon bébé. Cet homme-là, il est dans ma vie, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire avec lui, tout ça. Aujourd'hui, je témoigne, je suis à 7 mois et demi de grossesse. Ça se construit jour après jour, semaine après semaine. Et je trouve que c'est génial, enfin la chance que j'ai, et la chance qu'a mon enfant, de s'être trouvé un père d'évidence, d'une certaine manière. Alexis, il a donné des nouvelles à l'anniversaire de notre rencontre, qui a eu 10 ans, au 1er avril 2021. Bah, il voulait prendre des nouvelles de mon projet de bébé parce qu'il était au courant du fait que j'avais ce projet-là. Donc quand il a pris des nouvelles, j'étais à 6 mois. Et j'ai compris dans la conversation que lui, ce qu'il cherchait à savoir, c'était si j'étais en couple. Et parfois, quand j'écoutais certaines de mes amies parler de leurs relations de couple, mariées, etc., où elles sont pas heureuses, je me disais que finalement, moi, j'étais plus heureuse à être seule dans mon amour éthéré et complètement virtuel, plutôt que dans une relation de couple pénible au quotidien, quoi. Mais parfois, je me suis posé la question, est-ce que ça compte, en fait ? Est-ce que ça compte, un amour, quand il n'est pas vécu au quotidien, quand on n'est pas en train de se laver les dents tous les soirs au-dessus du même lavabo, quoi ? Est-ce que ça vaut ? Je crois que chacun répond ce qu'il veut à cette question-là. Après, c'est en fonction de son histoire.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci d'avoir écouté Ex. On vous donnera des nouvelles du destin d'Elsa régulièrement. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.